Interview.
2 jours.
Est-ce que c'est bien réglé? Ouais, c'est bon.
Allez, ça marche.
C'est bon. Ouais. Bonjour, ici R du Bois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Lucandiois. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nathaël Coste. Bonjour.
Bonjour.
Nathaël Coste, vous êtes ici pour nous parler d'un documentaire qui est en préparation et qui s'intitule « La théorie du boxeur ». Donc un film qui traitera de l'écologie globalement, de l'avenir aussi, de la terre, de l'agriculture et de l'humanité tout simplement. Et donc, pour ça, vous rien avez, ça. On peut dire, hein, c'est, je vais un peu trop.
Ah, non, pas de souci. Non, je disais l'humanité, l'agriculture, l'écologie, ouais, il y a tout ça dedans, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup.
Et donc, pour ça, vous faites appel aussi à un site de crowdfunding, ProArty. Pour cela, vous allez nous parler de cette constitution, de ce documentaire, le désir qui en est venu. D'ailleurs, à la suite d'un autre film que vous aviez présenté, qui s'intitulait « Enquête de sens ». Alors, pour histoire, on peut peut-être rappeler ce film-là, « Enquête de sens ».
Ouais.
Est-ce qu'il est un peu le préambule de celui qui est en préparation ?
Mais ouais, quelque part, bonjour tout le monde. Ouais, en quête de sens, on était venu le présenter à Die, je pense, en 2015, en 2016, aux rencontres de l'écologie, notamment, et aussi au Pestel. Et me semble-t-il, en tout cas, et du coup, bah, c'était un road trip initiatique autour du monde avec mon ami Marc. Et bah, là, on était un petit peu à l'âge où on rentre dans la vie active, on va dire. Et que finalement, bon, moi, ayant fait l'université et lui, ayant fait une école de commerce, on n'avait pas forcément exactement les mêmes attentes non plus de la vie. Mais on avait été bien surpris de découvrir aussi le monde cruel et cynique, notamment suite à la crise financière qui nous avait un peu ouvert les yeux, puisque je l'avais rejoint à New York à ce moment-là, au moment où la crise financière a éclaté en 2008. Et de là, il nous était venu cette drôle d'idée de voyager, d'aller chercher un petit peu des penseurs de l'époque, plutôt un peu des sages, on peut dire, ou des gens qui ont en tout cas un regard sur... Au départ, l'intuition, d'ailleurs, c'était un peu collapso. L'intuition au départ, c'était de se dire, mais... La monnaie va disparaître, il n'y aura plus d'économie, plus de banque. Donc, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est quoi le plan B? Donc, au début, c'était même un film qui devait s'appeler Plan B. Et je crois que c'est devenu le nom d'une pilule contraceptive. Donc, on a abandonné ce nom. Mais en quête de sens, c'est venu par la suite. Et en tout cas, on a voyagé, on a rencontré des gens comme Vandana Shiva, comme Bruce Lipton, Satish Kumar, qui nous ont vraiment éclairés. Donc, on a pris des sacrés baffes, on va dire, sur ce projet. Puis, on a essayé après, on va dire modestement, de remettre ça en forme aussi bien qu'on a pu pendant 3-4 ans de montage et pour pouvoir finalement présenter le film après de longues années.
Ce film, lors de cette présentation, a éveillé certainement un intérêt du public. Et est-ce que le film répond à cette quête, justement, cette quête d'essence, ou alors c'est une ouverture à la réflexion?
Tu parles du nouveau film, donc la théorie
non,
du boxeur.
Je reste toujours sur l'enquête de sens.
Ouais, bien, sur enquête de sens, c'est sûr que ça a fait écho à... Avec un peu l'époque, quoi. On a vu, bah, on voit encore aujourd'hui des tas de gens qui font des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des écoles d'agronomie encore. On a vu récemment là, à AgroParisTech, il y a des gens qui finalement décident de quitter le système, de se reconvertir, de chercher un boulot avec, on va dire, le plus de sens, le moins d'impact. Donc je pense qu'il y a aussi certaines personnes dans le Diwa qui ont peut-être connu ces trajectoires-là. Mais bah ouais, ça c'était quand même pour nous très révélateur que, en fait, il y avait un proverbe qui disait on peut pas. Ça sert à rien d'essayer d'être bien adapté à une société malade, quoi. Et en tout cas, voilà, c'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société malade. Du coup, tous ces gens-là ont eu un peu un sursaut, on va dire, de survie en même temps, quoi, d'essayer de se dégager d'un système un peu mortifère. Et du coup, ouais, ça fait écho à ça. Et on est allé beaucoup le montrer dans des écoles de commerce et en tout cas, et dans tout un tas de lieux d'enseignement. On l'a passé aussi d'ailleurs à l'internat de Die, je suis venu le présenter aussi. Et c'est toujours super intéressant, en tout cas, d'échanger avec des gens qui sont dans cette génération, qui vont faire le pas vers une vie d'adulte, la vie active, et qui en fait doivent, quelque part, à un moment donné, peut-être se poser la question, est-ce que je me conforme au moule d'être un employé, de travailler pour une compagnie, de travailler pour une société, ou est-ce que j'entretiens d'autres rêves et comment subvenir aussi à mes besoins dans ce cadre-là. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Et le film n'apportait pas de réponse, mais en tout cas, il donnait des angles plus philosophiques sur un peu ces questions de sens aussi de la vie. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on est venu faire?
Nous arrivons donc à ce film, La théorie du boxeur. D'ailleurs, quelle est-elle, cette théorie?
Alors, la théorie du boxeur, on la découvrira dans le film, notamment dans une séquence qui a été tournée dans le Haut-d'Iwa. Et notamment, ça concerne une séquence à Valdrome qu'on a filmé avec les forestiers de l'ONF. Mais j'en dis pas plus. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire par rapport à l'affiche qu'on a déjà réalisée avec un dessinateur de la vallée, là, Julien Cibert, on a voulu exprimer en tout cas un autre sens de la théorie du boxeur dans l'affiche qui peut être un petit peu graphique. Et donc, il s'agit aussi de se dire. Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les challenges qui sont devant nous, donc nous, on s'intéresse au changement climatique dans ce film. Hein. C'est un film qui traite de comment l'agriculture et l'alimentation peuvent s'adapter au changement climatique. Donc c'est un vaste sujet et, du coup, qu'on aborde, mais qu'on a filmé intégralement dans la vallée de la Drôme. Donc voilà, c'est un film, on va dire, un film de territoire. Avant tout, et la théorie du boxeur, ça reviendrait à se demander, avec tous les défis qu'on a sous les yeux, est-ce que c'est pas à nous, quelque part, de changer de posture? En tout cas, ça, c'est le sens qu'on a exprimé sur l'affiche. Et donc, peut-être essayer d'aller vers... d'évoluer, en tout cas, dans nos postures. Voilà.
Une question qui me vient lors de ces préparatifs de ce film, le nouveau. Est-ce que vous vous êtes senti petit par rapport à la tâche qui est celle de transmettre, d'informer, de partager
Ouais, ça peut arriver, ouais. Mais c'est vrai que c'est du travail au long cours. Hein. C'est un film comme ça peut s'étaler sur... celui-là, on essaie de le faire dans un temps relativement court, mais ça va quand même être 2 ans et demi, on va dire, de travail et de réalisation. Et puis la diffusion aussi qui enchaîne, qui a un autre cycle derrière. On va dire 2 ans plus la diffusion, qui s'étalera, je pense, sur peut-être 1 an ou 2, quoi, globalement. Mais on se sent petit. En même temps, c'est sympa de s'attaquer à des montagnes de temps en temps. C'est peut-être un truc un peu d'alpiniste, des fois, de se dire, allez, on y va. Puis des fois, j'envie vachement les gens qui ont des cycles très courts, comme par exemple... faire du pain ou on a un cycle sur une semaine ou peut-être cultiver. Donc voilà, c'est peut-être pas pour rien si je m'intéresse aussi aux métiers agricoles, ces métiers avec beaucoup de cycles, beaucoup de récurrences aussi. Et du coup, nous, c'est vrai qu'on a des métiers, dans le documentaire, on travaille par projet, sur des projets parfois longs. Des fois, on n'en voit pas le bout, des fois, on est découragé. Donc oui, forcément, ouais, on se sent un peu petit des fois. Et puis là, on s'est attaqué à un sujet qui est quand même assez costaud. Donc il faut trouver quel chemin est-ce qu'on va tisser, comment est-ce qu'on va... rassembler les pièces et raconter une histoire en fait avec tout ça qui permettent d'accéder un peu à une impression, de comprendre un peu que le système agroalimentaire il fait système en fait. Et donc on veut donner un goût de ça et donc en fait on est en train de se triturer la tête en ce moment en salle de montage pour voir justement comment ça va pouvoir être raconté cette histoire.
Pour les préparatifs de ces films, vous avez dû certainement parcourir le territoire en long et en large, en hauteur aussi. Vous êtes allé au-devant de la population, vous avez échangé avec elle aussi. Est-ce que cela a éveillé aussi d'autres sujets d'intérêt pour ce documentaire ?
Ouais. Des sujets d'intérêt, c'est vrai que ça manque pas, surtout dans notre vallée où il y a quand même beaucoup de sujets qui sont, on va dire, pris en main aussi par les citoyens, quoi. Il y a aussi beaucoup de réflexions en fait sur tout ça. Il y a une historicité aussi très importante hein, sur ces thématiques d'agriculture, d'alimentation, la place de la bio aussi qui est très importante, tous les réseaux en circuit court qui sont extrêmement développés, notamment dans le Diwa. Donc tout ça, effectivement, moi je l'ai aussi un peu creusé et donc découvert. Et ça a éveillé beaucoup de curiosité, beaucoup de fascination. Je sais pas, on parlait encore à l'instant de projets qui sont émergents, comme un projet qui s'appelle Ferme Partagée, là, qui est porté par la Carline et par la Ferme des Volonteux, notamment. qui est plus loin par contre, qui n'est pas ici, la Ferme des Volonteux, mais qui était un des fournisseurs historiques là, récents de la Carline, qui est plutôt dans la plaine de Valence. Et ça, c'est des projets en fait incroyables qui pour moi préfigurent l'avenir et peut-être l'avenir de l'agriculture, avec la possibilité de réfléchir comment est-ce qu'on peut s'installer en collectif, en agricole, en faisant évoluer la loi aussi, qui aujourd'hui ne facilite pas du tout et même empêche la possibilité d'avoir par exemple une SCOP pour installer une ferme. Donc ça, c'est des angles d'attaque en fait qui sont quand même assez pionniers, qu'on a ici, finalement, en termes d'innovation dans la vallée de la Drôme. On peut citer aussi des gens comme Terre de Liens, qui sont aussi à la pointe, aussi, qui ont généré un mouvement national sur la réappropriation aussi des terres, pour pas que ça aille à l'artificialisation, pour que ça reste aussi de l'agriculture paysanne. On s'est intéressé aussi à des initiatives qui cherchent à relocaliser l'agriculture et la production, comme par exemple les jardins nourriciers, où il y a cette expérimentation assez inspirante. Du coup, on voit qu'à la fois, on reconnecte les gens à la terre et en même temps, on est dans cet acte de produire une partie de son alimentation, quoi. Et ça, on voit que de plus en plus, même dans des... Ça fait complètement écho aussi à des modèles qui, aujourd'hui, dans la société, sont en train de se développer. Notamment, je parlais de fermes partagées et on s'aperçoit que dans les types d'installations agricoles, on a aussi beaucoup de gens qui font de l'agriculture à temps partiel aujourd'hui, qui ne veulent pas forcément avoir un plein temps sur de l'agriculture. Donc, on va avoir un travail à côté et on a envie aussi d'avoir une activité agricole et pourquoi pas une activité nourricière, c'est-à-dire produire sa propre alimentation. Et en fait, ça, c'est assez nouveau. Non, parce qu'en fait, nos anciens le faisaient jusque dans les années 50-60. C'était hyper présent. En fait, les gens, on était dans un pays où, comme aujourd'hui, dans une large partie du monde, tout un chacun produisait un bout de son alimentation et sa petite treille avec le vin, etc. Et du coup, peut-être que ça, c'est en train de revenir, en tout cas dans la conscience, de se dire c'est bien si on a aussi à un moment donné les mains dans la terre, ça nous rend peut-être aussi plus conscients de ces enjeux-là et de la difficulté aussi de ces métiers, de leur beauté, mais de leur difficulté. Donc c'est quelque chose qu'on a trouvé assez inspirant ici, en tout cas, c'est toutes ces initiatives qui convergent là-dessus. Des choses comme ça très intéressantes que j'ai redécouvert à l'occasion de cette enquête, ouais.
Vous avez parcouru d'autres lieux qu'ici, hein, le Diois ou la Drôme. Étant casanier, est-ce que, pour ma part, je voulais savoir, lors de ces rencontres ou de vos pérégrinations, est-ce que vous avez, vous trouvez qu'il existe un écho qui s'étend bien au-delà ou qui s'implante vraiment en France de cet aspect alternatif au système commercial
Je pense que là-dessus, la réalité, elle est quand même elle est mitigée. Donc en fait, le film va parler de ça, du fait qu'il y a aussi deux systèmes qui aujourd'hui cohabitent. Je ne vais pas dire forcément s'opposent, parce qu'ils ne s'opposent pas, ils ne font pas que s'opposer. Donc justement, je mentionnais là les circuits courts, on a les circuits longs qui sont juste à côté. Et puis en fait, tout ça, aujourd'hui, on peut avoir l'impression que ça cohabite et quelque part, heureusement aussi d'un côté, parce que ce que dit aussi le film, c'est qu'on ne peut pas probablement pas se contenter que de circuits courts pour vivre, que les territoires ont besoin les uns des autres et qu'on a historiquement échangé des denrées avec tous les territoires. Donc après, la notion de circuit court, c'est aussi la notion d'intermédiaire. Donc on regarde deux choses différentes. C'est-à-dire, j'ai découvert ça en discutant avec les gens aussi du Grappe et de la Carline, c'est-à-dire que considère que finalement, en circuit court, en tout cas, pose la question de se dire si on échange, si on fait venir des oranges de Sicile, mais qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Est-ce qu'on parle encore de circuit court? Quand est-ce que ça devient un circuit long? Donc voilà. Après, donc il y a ces deux notions, quoi. Est-ce qu'il y a des intermédiaires et d'où quelle est la distance qu'a parcouru notre alimentation? Mais un fait qui est assez étonnant, par exemple, et dont moi j'avais pas connaissance, voilà, et dont on va parler dans une vidéo qu'on poste la semaine prochaine, là. Justement, c'est de se dire les circuits courts ont énormément d'avantages pour la résilience du territoire, pour garder de la valeur ajoutée sur les territoires, pour permettre à des formes d'agriculture, on va dire, beaucoup plus sensées aussi de se maintenir. Mais par contre, elles n'ont pas que des points positifs non plus. Et l'impact éventuellement énergétique du transport, aussi paradoxal que ça puisse paraître, peut être moins bon que sur certains circuits longs où on fait voyager des tankers depuis l'autre bout du monde, mais le voyage est tellement optimisé par rapport à un C15 qui va parcourir la campagne à moitié vide, qu'en fait les gens qui calculent ça, donc c'est pas mon cas, mais les gens qui ont calculé ça disent qu'en fait des fois je les ai lu même un truc qui est incroyable, hein, franchement je vous le livre parce que ça m'a sidéré et que j'aimerais bien vérifier quand même ce chiffre aussi, quoi. Donc je prétends pas que c'est vrai, mais ce que je lisais, c'est que l'agneau de Nouvelle-Zélande qui est nourri à l'herbe, finalement, avait moins d'impact carbone. Alors, parce qu'aujourd'hui, on mesure tout en impact carbone, ça devient un peu l'alpha et l'oméga de tout. Mais enfin, je ne partage pas forcément ça, mais en tout cas, c'était ça l'info. ça va plus d'impact carbone que de l'agneau élevé chez nous qui va être nourri, par exemple, avec des tourteaux de soja importés d'Amérique du Sud, etc. Alors, on ne parle pas de l'agneau du Diwa qui, je pense, est élevé en extérieur et bien heureusement. Mais on va dire sur les filières agneaux qu'il y a, par exemple, en France, il y a quand même ce truc où on se demande aussi pourquoi il y a de l'agneau qui arrive de Nouvelle-Zélande qui est moins cher que de l'agneau français, quoi. Ça, c'est aussi des questions qui, dans la mondialisation, viennent fragiliser aussi des circuits courts comme on peut essayer de les faire vivre ici.
Le film La théorie du boxeur aborde trois thèmes principaux, l'alimentation, le rôle du vivant et la place de l'eau. Donc c'est en quelque sorte trois chapitres qui seront proposés.
Ouais, alors effectivement le film il est découpé, il sera découpé en plusieurs chapitres, mais ils sont même un peu plus nombreux que ça à vrai dire. On va parler aussi du cas des arboriculteurs qui ont énormément de difficultés aujourd'hui, diverses et variées en termes de climat, notamment avec les gels tardifs et le fait qu'il y a de moins en moins d'hiver, il y a moins en moins de froid, donc le débourrage, donc les bourgeons partent très tôt et le gel arrive derrière et donc on a des cas catastrophiques comme en 2021 où la production a été réduite à néant dans la région. Et plus largement dans une partie de la France. Donc on a une partie du film qui est avec eux, une partie effectivement qui parle plutôt de l'élevage ovin extensif. On est allé voir aussi des viticulteurs. On a effectivement une partie qui s'intéresse plus aux grandes cultures, à la gestion de l'eau, à ce qu'on pourrait percevoir comme une crise de l'eau dans la vallée, au fait qu'on a un fort déficit quantitatif et qu'aujourd'hui, ça vient créer aussi beaucoup de crispations, beaucoup de questionnements. On a eu cet été des villages qui ont manqué d'eau, y compris dans le Diwa. On a eu des réseaux d'irrigation qui ont été coupés, qui ont conduit à des pertes de cultures. On a eu des poissons morts sur le dos, mais ça arrive de plus en plus souvent finalement dans la basse vallée. Voilà, on a tout cet état des faits, sans parler de cette chaleur excessive, ces vagues de chaleur très fortes qui mettent vraiment à rude épreuve, que ce soit les arbres, les animaux ou les êtres humains qui travaillent dehors, quoi. Donc on est vraiment tous aujourd'hui, autant qu'on est, très concernés par ça. L'incendie de Roméo est venu en plus en rajouter une couche sur les incidences que ça pouvait avoir, ce changement climatique très concret en fait dans notre quotidien, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui on a vraiment envie de se demander quelles sont les pistes de solutions qu'on a pour d'une part s'adapter à échelle locale, c'est-à-dire moins souffrir de tous ces dérèglements et pouvoir conserver aussi et pourquoi pas améliorer une forme d'autonomie, de résilience alimentaire sur notre territoire. Donc avec des baisses de rendement, avec des pertes de récolte, avec moins d'eau. Et l'autre aspect du problème, du coup, c'est de... Donc il y a la partie adaptation et l'autre partie, c'est de voir à échelle globale comment est-ce qu'on peut, nous, effectivement, influer éventuellement, comment l'agriculture peut devenir une solution à échelle globale par rapport à ces enjeux de changement climatique, puisque pour parler carbone... On estime que l'agriculture émet à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et dans la vallée, ce serait 26%. Donc, on n'est pas sur quelque chose de négligeable en termes aussi d'impact. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les tracteurs en fait, qui émettent tous ces gaz à effet de serre. C'est bien les pratiques culturales donc, qui ont aussi un impact carbone. Et donc, en fait, sans stigmatiser personne et encore une fois, sans dire que c'est l'alpha et l'oméga de la réflexion sur l'écologie et l'environnement, en tout cas, il y a sans doute des solutions à regarder sur les pratiques culturelles, en tout cas au niveau national, ça ne concerne pas que la vallée pour le coup, pour essayer d'améliorer cette situation.
L'alimentation, on en a un peu parlé il y a quelques instants. Le rôle du vivant aussi est abordé dans ce film. Donc, quelles sont les questions qui vous ont poussé à cette recherche?
On entend beaucoup parler de changement climatique et je pense à un moment donné, on est tous un peu bassinés aussi. Et par contre, la crise, entre guillemets, qui est un peu passée sous silence, c'est l'effondrement de la biodiversité. Donc j'utilise le mot effondrement qui n'est pas neutre, mais parce que réellement, on est face à un effondrement et que du coup, il faut appeler les choses par leur nom, quoi. Et ça, c'est très préoccupant et ça a des causes multiples, variées, qui sont assez bien connues maintenant. Et donc par rapport à ça, l'agriculture a évidemment son rôle à jouer. Ça, je pense, c'est dans le Diwa, on l'a compris il y a très longtemps. Mais du coup, on parle de biodiversité des sols, On parle aussi de la vie des sols et de la fertilité, où il y a finalement une biodiversité incroyable. Et donc c'est aussi quelque chose dont on parle dans le film, et que le fait d'avoir des sols qui stockent plus de matière organique nous rend aussi plus résilients par rapport aux épisodes de sécheresse. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus regardé par le monde agricole. La PAC commence à aller dans ce sens avec tout ce qui est culture intermédiaire, couverts végétaux, qui commence à se développer, même si on voit encore beaucoup de sols à nu. Mais c'est des réflexions. Il y a aussi des raisons. Hein. Les sols à nu, c'est pas toujours facile d'implanter des couverts végétaux pour des raisons agronomiques et des raisons aussi de manque d'eau à certaines périodes de l'année. Donc c'est pas magique, mais on a ça qui est là devant nous. Et en tout cas, sur le vivant, on avait envie de parler de biodiversité pour, même si les deux crises ne sont pas spécialement très corrélées, il y a des liens parce qu'avec le réchauffement, il y a des espèces, et notamment des nuisibles, des ravageurs, comme on appelle, qui remontent depuis le sud et qui arrivent chez nous. Donc ça vient impacter notamment les forêts là, de la Haute-Vallée, mais aussi pas mal de cultures et depuis quelques années. Donc on a ça, mais sinon c'est le problème de biodiversité et il est très lié à nos activités humaines lui aussi. Mais finalement c'est un autre dégât, on va dire, collatéral de nos modes de vie assez insoutenables au niveau global. Et ça fait que cette crise de la biodiversité, elle est là un peu en parallèle. Mais on la voit un peu moins, mis à part qu'on sait qu'on n'a plus besoin de nettoyer son pare-brise une fois qu'on a fait de l'autoroute. On voit des fois un peu moins dans notre vie quotidienne les impacts que ça peut avoir et elle est un peu passée sous silence. Donc on avait envie d'en parler et puis donc de donner la parole à des gens qui ont une vraie réflexion sur la place du vivant, la place du sauvage, que ce soit dans les sols ou les pratiques d'agroforesterie, avec notamment l'association dromoise d'agroforesterie qui est partenaire du film, ou Permalab qui réfléchit sur l'hydrologie régénérative. Donc des acteurs aussi localement qui sont assez pointus sur le sujet.
Ce film est en quelque sorte un constat, ou alors est-ce qu'il va au-delà et peut-être d'amener, de réfléchir sur ce qui peut se produire ou qui pourrait être amené à être produit pour l'alternative de ce réchauffement climatique, par exemple. Est-ce qu'on peut penser, pour réalimenter le sol, de procéder à l'élevage de certaines bactéries ou de germes qui permettent justement à ce sol de se régénérer plus rapidement? Enfin, est-ce que vous vous êtes intéressé sur cette notion-là, mais est-ce que c'est une notion peut-être pour un autre film?
Oui. Alors, sur la question précise de réensemencer les sols avec des bactéries, le film n'en parle pas. Mais c'est des pratiques effectivement qui se développent. On peut mentionner qu'il y a la ferme Blue Soil qui est sur le territoire, en tout cas plutôt vers Dieulefit, pas exactement dans la vallée, mais qui travaille sur du réensemencement de sol avec une ingénieure là, en biologie qui est très douée et du coup qui prélève dans un terrain donné les micro-organismes pour les cultiver et les réensemencer. Donc pas forcément réensemencer des choses qui viennent du Japon ou du Mexique, ce qui pose parfois question. Donc la ferme Blue Soil, mais bon, ça le film n'en parle pas, on ne s'est pas intéressé à ce terrain. Par contre, oui, c'est un film plutôt de point de vue, en fait. C'est pas tant un film de solution, si ce n'est qu'on montre comment les gens s'adaptent. Donc là-dedans, il y a tout un paquet de solutions, quoi. Que ce soit, et c'est des solutions très diverses, hein. Il y a des solutions basées sur le vivant, comme on l'a dit. Il y a aussi des solutions basées sur la génétique, sur la recherche génétique. Il y a des solutions basées sur la technique, sur des investissements, sur des modes d'adaptation qui sont en fait des protections à ce changement climatique. Et donc, en fait, on va s'apercevoir qu'il y a vraiment ces différentes stratégies, quelque part, qui cohabitent et qu'on et en fonction des fermes aussi, sont privilégiés, on va dire. Y a un film c'est un film de point de vue, dans le sens où on a donné la parole à des gens qui ont des visions du monde qui ne sont pas forcément... qui ne seraient pas forcément harmonisées entre elles. On va dire il y a cette diversité et on a voulu donner cette place à cette diversité. On est allé sur des petites fermes, sur des plus grandes fermes. On est allé sur des fermes en bio, sur des fermes en conventionnel. Et on a voulu donner la parole à tout le monde, en fait, parce qu'on est tous impactés par le changement climatique et voir justement quelle était la perception de ce phénomène à différentes échelles et dans différents types d'agriculture.
La place de l'eau, on en a aussi parlé, hein, cette quelque sorte déshydratation du sol qui est conséquente et croissante chaque année. Et puis, donc, je voulais savoir, par rapport à la nourriture, hein, est-ce que il y a une réflexion, et je sais qu'il y a eu cette alternance proposée de cultiver du sorgho Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres types de productions qui sont en préparation ou...
Oui, bah, tout à fait. Ça, c'est, pour le coup, c'est des questions qu'on se pose dans le film, notamment par rapport à la place du maïs, on va dire, qui est très décrié et qui est consommateur en eau sur la période estivale, au même titre que le soja d'ailleurs, hein, mais le soja, on en voit moins par ici. On voit beaucoup de maïs, même si les surfaces ont eu tendance à diminuer ces dernières années. Donc ça, c'est des questions où on a posé la question, on va dire, à des agriculteurs de la Basse-Vallée qui, entre autres, cultivent du maïs. Et donc, on en parlera dans le film. Sur les cultures de substitution, ce que je peux dire, c'est que... Il n'y a pas aujourd'hui un truc qui est très très évident par rapport au, en tout cas du point de vue des agriculteurs, hein, je parle toujours, hein, moi j'ai pas d'opinion très très évidente là-dessus pour dire, en termes d'agronomie je suis pas compétent, mais en tout cas le sorgho qu'on voit hein, se développer quand même, hein, il s'est beaucoup développé en France ces 2-3 dernières années d'ailleurs, ça accélère, mais apparemment la filière est assez mal développée, les prix de vente sont sans commune mesure avec celle du maïs, donc on va dire que sur des terrains en sec, ça va sans doute être une alternative. Aujourd'hui, on peut avoir des légumineuses, on peut avoir de la lentille, on peut avoir du pois chiche, qui sont des cultures qui sont compliquées à mener, que certaines fermes mènent ici, comme par exemple à Miscon. Mais c'est jamais des cultures très très simples à faire. Donc en gros, aujourd'hui, si elles sont implantées dans la vallée, c'est pour être valorisées en circuit court, en local. Voilà. Et là, ça peut trouver son sens. Et encore, il y a de très mauvaises années. Je crois que l'année dernière était une très mauvaise année. Cette année, un peu mieux. En tout cas, il y a une complexité. Il n'y a pas une plante miracle là. C'est un cocktail éventuellement de solutions d'implantation, si j'ai bien compris, de culture. Et à chaque fois, il y a la question de la filière. En tout cas, soit on est capable de le valoriser en circuit court, soit à qui le revendre et à quel prix. Il y a toujours cette question-là qui peut se poser. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'agriculture en sec, si on a des étés comme 2022 qui se multiplient, ça va devenir compliqué. En tout cas, sur la Basse-Vallée, on parle de baisse de rendement de l'ordre de 30 à 50%, je crois, sur les cultures en sec, que ce soit peut-être pas le seigle, mais le blé, en tout cas... des cultures comme ça qui ont quand même vraiment trinqué cette année. Et je pense que le sorgho ne devait pas être dingue. J'ai entendu que quelqu'un n'avait même pas remboursé les frais d'implantation de son sorgho cette année. Donc, ce n'est pas du tout forcément la panacée encore, même si ça semble présenter une solution pour l'alimentation animale, peut-être même pour l'alimentation humaine d'ailleurs, hein, parce que je sais qu'en Afrique, où j'ai voyagé, on mange du mil, beaucoup, on mange ce type de plante, quoi. Donc, peut-être, effectivement, il faudra y venir.
Les préparatifs pour ces deux films prennent plusieurs années à se constituer. C'est de quel fait, justement, qu'il faut autant de temps pour produire un documentaire ?
Ouais, et ben c'est un peu le même boulot. C'est presque aussi long qu'une petite thèse, des fois, j'ai l'impression. Sur des films comme ça, donc on parle d'un long métrage. La théorie du boxeur, ça va durer à peu près 1h30. Donc c'est vraiment des films taillés pour le cinéma, on va dire, où aussi on prend le temps de raconter quelque chose, d'avoir un propos, qu'il y ait de la place, qu'il y ait une musique aussi qui soit pensée, des atmosphères, de la poésie. Donc effectivement, arriver à trouver ces alchimies prend beaucoup de temps. Donc là, c'est la phase où on est en ce moment. Et du coup, le film est prévu pour se diffuser cet été et j'espère qu'on arrivera à le finir d'ici cet été. Et aujourd'hui, c'est un peu un point d'interrogation pour moi, mais parce que ça prend du retard, en fait. Mais dans les phases préliminaires, bah, y a déjà avoir l'idée du film. Donc là, c'était en lien aussi avec des financements de territoire. Hein. C'est la communauté de communes du Val-de-Drôme qui finance, ainsi qu'une enveloppe Leader, donc programme européen, qui permet de financer le film. Une enveloppe du département et également des fondations privées et du mécénat. Et puis maintenant, le crowdfunding là, qui est encore en cours pendant 15 jours là, sur la plateforme ProArty. Donc tout ça, c'est trouver ces financements. Bah, ça, on a fait ça en même temps qu'on est allé enquêter les différentes fermes. Et donc, on est allé sur une trentaine de fermes, donc dans toute la vallée de la Drôme, pour ceux qui nous rejoignent. Et donc, c'est comprendre aussi, prendre le temps de parler avec les agriculteurs, les agricultrices, et comprendre réellement ce qui se passe, quoi. Et éventuellement, déconstruire aussi des idées reçues que moi, je pouvais avoir sur le sujet. Donc, j'ai beau avoir fait un peu des études de géographie, avoir un peu travaillé dans l'irrigation, avoir un peu voyagé. Voilà, il y a plein de thèmes que je ne connaissais pas. Je connaissais très, très peu la question des grandes cultures, la vie des sols, la biodiversité. Ce n'était pas des thèmes sur lesquels j'étais extrêmement vraiment aguerris, quoi. Donc, c'était aussi aller interviewer tous ces acteurs dans des fermes ou des professionnels ou des techniciens ou des bureaux d'études qui travaillent sur ces sujets-là, et essayer de comprendre en fait comment, quel récit est-ce qu'on pouvait faire. Donc, je rappelle, hein, toujours l'angle, c'est comment est-ce qu'on s'adapte au changement climatique pour l'agriculture et l'alimentation. Et on regarde ça à partir d'un territoire, quoi, à partir de la vallée de la Drôme. Donc, finalement, il y a ces quatre. Ces quatre polarités à faire cohabiter. Et voilà, donc ça prend un peu de temps, ce temps d'enquête. Ensuite, il y a eu à peu près un an de tournage. On a commencé un peu plus. On a commencé à tourner aller vers le printemps-été 2021. Et on a arrêté les derniers tournages, là, en octobre 2022. Donc, on a ramené pas mal d'images, donc dans beaucoup de fermes. D'autres personnages aussi, quelques techniciens, quelques scientifiques aussi, qu'on est allé voir avec parcimonie, parce qu'on voulait pas faire un film d'interview un petit peu figé dans des salons. On avait envie vraiment d'être dans la parcelle, dans les champs, en plein air, avec les agriculteurs. Donc après, c'est le temps du coup du tournage, donc qui prend tout ce temps-là, et puis maintenant le temps du montage, de la post-production. Donc sur un film d'une heure et demie, finir en deux ans, trois ans, c'est assez honnête. Voilà. Et en quête de sens, ça m'a pris avec Marc quasiment 7 ans, quoi. Donc on voit que c'est déjà un peu mieux.
Est-ce qu'il y a des prises de son, d'images que vous regrettez de ne pas pouvoir monter dans ce film ?
Ouais, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Bon, on doit faire plein de deuils, hein. Donc ça, c'est le travail du monteur, Maxime Huige, hein, qui est un collègue. On travaille à Rancard, à Oust-sur-Scie. C'est lui qui a le grand katana et qui vient aussi découper. On réfléchit ensemble, hein, mais quand ça va être la fin du film, qu'il faudra finir et qu'on aura 2 heures montées et qu'il faudra plus qu'une heure et demie, voilà, là, ça va être douloureux, quoi. Il y aura des choix à faire. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait aussi sortir des films annexes. Donc, je pense qu'on va monter un site internet pour la théorie du boxeur. Pour l'instant, c'est sur la page de Kamehameha, donc notre association qui produit le film. Kamehamehafilm.org. Après, vous aurez plus facilité à le trouver en tapant la théorie du boxeur, je pense. Vu que le nom est compliqué à épeler, mais en tout cas, c'est des deuils constants, donc on va sortir tout un tas de petits films annexes qu'on pourra librement projeter dans la vallée ou regarder chez soi sur les thèmes de l'alimentation, sur les thèmes du coup de la gestion de l'eau, j'imagine, et puis des focus sans doute sur la biodiversité, des focus un peu plus fouillés qu'on n'a pas le temps de mettre dans le long métrage, et donc on aime bien du coup avoir un petit écosystème de films qui gravite autour du long métrage et qui permettent aussi de faire connaître l'existence du long métrage.
Je voulais venir à l'association Kamehameha, une association qui permet de créer des films documentaires, et depuis 2011 dans la Drôme.
Et oui.
Alors, l'association regroupe quelles personnes ? Des documentaristes comme vous ? Et puis...
Ouais, on n'est pas fermé. Disons que nous, on a, avec Enquête de Sens, on a fait vraiment un truc système D. On n'était pas du tout dans les circuits du CNC, on n'était pas dans des financements. En fait, on n'avait que nos économies et puis un crowdfunding à la fin, quoi. Donc, on était un peu hors circuit. Donc, ça nous a donné, en fait, quand on a sorti le film, on était au bout de la démarche, quoi. On l'a distribué nous-mêmes au cinéma avec l'aide d'un mécène. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu toucher vraiment beaucoup de gens aussi, parce que finalement, on avait distribué le film un peu de la même manière dont on l'avait produit, c'est-à-dire avec les moyens du bord et puis un peu... sans se prendre la tête et en comptant sur les gens. C'est les gens qui ont organisé toutes ces projections à travers la France et qui sont allés voir leur cinéma à l'époque pour organiser les projections du film. Donc ça a créé une belle vague à l'époque et ça a été très très chouette. Donc du coup, on était un peu plus de cette école cinéma associatif, on va dire. Il faut savoir que les associations ne sont pas reconnues par le CNC et donc on n'a le droit à aucun argent public de ce côté-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, un film comme La théorie du boxeur, c'est de nouveau un film hors circuit, c'est un film de territoire, c'est financé par des financements publics mais lié à des problématiques de développement de territoire et pas du tout cinéma, quoi. C'est une nuance qui est intéressante. Les gens qui ont gravité autour de Kamehameha, il y a eu beaucoup de jeunes auteurs, réalisateurs ou de gens qui voulaient faire leur premier film. On a notamment fait des séminaires d'autoproduction où il y a des gens qui venaient, on va peut-être les reprendre, on en a fait une dizaine depuis l'année 2016 et c'était des gens qui voulaient se lancer dans leur premier film ou leur premier web-série et qui ne savaient pas trop par où prendre la chose. Et donc là, c'était une formation en 3 jours à prix libre qui était assez intense et voilà, c'est convivial. On a été en rapport aussi avec d'autres acteurs de l'audiovisuel, d'autres productions, parce qu'on a fait de la distribution suite à Enquête de Sens. On a distribué un catalogue de films, on va dire, inspirants sur les transitions sociétales et personnelles Et du coup, on a eu beaucoup de films sur l'éducation, sur l'environnement, sur la citoyenneté. Voilà. Et donc, on a arrêté cette activité de distribution il y a quelques années. On a voulu réorienter le projet sur de nouveau produire des films, raconter des histoires sur des thématiques qui nous touchent, sur des thématiques qui aujourd'hui touchent, on va dire, les citoyens, les humains sur la planète, et puis essayer d'apporter aussi notre touche, un regard un peu décalé, peut-être moi mon regard de géographe aussi. Avec Marc, c'était une entrée aussi plus spirituelle sur ces thématiques-là, une recherche aussi dans l'intériorité, dans la profondeur, dans le monde sensible. Voilà, on a aussi cette entrée-là sur les films. Et après, avec Kamehameha, on avait aussi contribué avec un collectif de réalisateurs, de réalisatrices, de techniciens de la vallée à monter les rencontres ad hoc qui avaient eu lieu donc à Mirabel-les-Blacons. Festival qui va peut-être se remonter cette année. En tout cas, je passe un appel. Il y a une équipe de bénévoles là, qui est en train de se motiver pour remonter le festival. Donc, vous pouvez les contacter si vous êtes intéressé pour monter dans le bateau.
Vous vous êtes formé à la géographie ? Qu'est-ce qui vous a amené à être documentariste ?
Déjà mes études de géographie, parce qu'il se trouve qu'il y avait un atelier vidéo et que j'ai réussi à m'inscrire à cet atelier. Donc c'est là qu'on m'a appris à filmer, à réaliser des films. Alors avec une entrée scientifique, une entrée recherche. Donc ce qui fait que j'ai réalisé aussi des films de recherche. J'en ai fait un en Inde du Sud sur les problématiques de crise de l'eau, d'accès à l'eau, et avec un contexte où les systèmes d'irrigation traditionnels qui sont très développés, avec d'énormes stockages d'eau qui sont tous connectés les uns aux autres, qu'on appelle les tanks. C'est un système incroyable qui existe depuis plusieurs milliers d'années, que les Anglais ont découvert en arrivant là-bas. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Et donc, notamment ces systèmes-là qui permettent du coup de produire notamment du riz et des cultures irriguées là-bas ont périclité quand l'énergie est arrivée. Donc d'abord les pompes à pétrole, puis les pompes électriques. Voilà. Donc ça raconte un petit peu cette histoire d'une crise de l'eau qui a été créée en fait par la modernité et par le fait que maintenant là-bas ils ont la canne à sucre qu'on exporte massivement pour faire des devises. Et en fait dans un modèle qui n'est pas du tout soutenable. Donc en fait ils vident les nappes qui ne se renouvellent pas. Et puis une fois que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ils partent en ville et ça se désertifie. Quoi. Donc c'est vrai que c'est une dimension... C'est pas très réjouissant ce qui se passe là-bas. Des pays qui vont être extrêmement atteints par le changement climatique aussi. J'ai vu une carte du monde sur les zones qui allaient devenir inhabitables en 2050. Ça fait quand même froid dans le dos quand on voit qu'il y a les deux tiers de l'Asie. Quoi. Mais enfin, voilà. Donc ça, c'était mes études de géographie et du coup, des films déjà sur la thématique de l'eau et de comment les humains, en fait... mettent en valeur leur territoire, habitent leur territoire, aménagent leur territoire. Donc il y a des tas de dimensions à ça, notamment la géographie culturelle, qui a aussi une approche de ça qui est beaucoup plus sensible et qui est passionnante. Et puis suite à ça, moi j'avais fait d'autres films dans le domaine agricole, notamment avec des associations ardéchoises là, autour de Terre et Humanisme. Et j'avais fait deux films en Afrique de l'Ouest. Un sur la préservation des semences locales, qui s'appelle « Les semences prennent le maquis », et l'autre sur un projet de coopération nord-sud autour de l'agroforesterie au Sénégal, qui montre un petit peu aussi des pionniers de l'agroécologie dans ce beau pays. Et celui-là s'appelle « Reverdir le Sahel ». Voilà.
Dans les conditions climatiques que nous vivons et qui évoluent chez nous, dans la Drôme notamment, est-ce que dans ces voyages, vous avez pu peut-être découvrir d'autres systèmes d'irrigation qui pourraient être adaptés ici ?
Question pas évidente. La question de l'irrigation, je la connais un petit peu parce que j'ai travaillé aussi comme chargé de mission dans une petite entreprise du sud de la France qui fait du conseil pour les associations syndicales autorisées. Donc je ne vais pas vous raconter ce que c'est, mais il y en a dans le Diwa quelques-unes qui s'occupent du coup de gérer des petits canaux d'irrigation notamment et bien d'autres choses en France. Mais alors du coup, la question de quel est le mode d'irrigation, ça évolue parce que notamment ces petits canaux d'irrigation font une irrigation gravitaire le plus souvent. C'est-à-dire qu'on ouvre les vannes et puis on répand l'eau dans le terrain. Et alors ça, c'est plus du tout à la mode. C'est-à-dire l'agence de l'eau a dit, alors ça, stop, il faut arrêter. Et je sais que les canaux ont été coupés assez tôt en saison cette année. Donc je crois qu'il y avait même une pancarte qui avait été affichée à Die pour protester contre ça. Et c'est bien, bien légitime qu'on s'interroge là-dessus. Et donc maintenant, effectivement, l'irrigation, elle va sur des techniques qui sont déjà laisser le maximum d'eau dans la rivière. détourner le moins d'eau possible dans la rivière. Donc ça, c'est la raison pour laquelle les canaux aujourd'hui sont plus très bien vus par l'agence de l'eau. L'autre chose qu'on essaie de faire, c'est d'être très très précis sur la goutte, quand est-ce qu'on met la goutte d'eau, à quel moment, jusqu'où. Et donc ça, c'est maintenant des systèmes de pilotage de l'irrigation avec des sondes qu'on appelle sondes tensiométriques. Et on est aussi beaucoup sur des systèmes de goutte à goutte, y compris des goutte à goutte sur le maïs. On verra un exemple dans le film d'un agriculteur qui expérimente ça là, dans la Basse-Vallée. Donc voilà, pour voir est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable ou pas. En tout cas, c'est le goutte à goutte aujourd'hui qui a le vent en poupe, mais ça pose d'autres problèmes agronomiques. Une plante qui est entre guillemets abreuvée avec le goutte à goutte, elle va faire un système racinaire qui est extrêmement faible en fait, et du coup qui devient plus du tout résiliente si jamais on lui coupe son goutte à goutte, quoi, quelque part. Donc c'est d'autres façons de faire. Les arbos font ça depuis très très longtemps, hein. Et aujourd'hui, en maraîchage, on y vient, on va dire, massivement, j'ai l'impression, et dans d'autres cultures aussi. Alors après, quand on parle de mode d'irrigation, voilà, après, c'est plus pour des grandes cultures, tout ce qui est les rampes d'irrigation, les enrouleurs, les intégrales, etc. Mais ça reste de l'irrigation. Je pense que la question qui est derrière, c'est quelle place aura l'irrigation si, à l'horizon 2030, 40, 50, on rentre vraiment dans un monde où on a beaucoup moins d'eau dans la rivière Drôme. Un chiffre qui a été sorti cette année et qui est hyper inquiétant, et c'est que les prévisions de débit sur la Drôme à horizon 2050, c'est moins 30 à moins 50% de débit l'été. On parle de débit d'étiage l'été. Donc, c'est extrêmement inquiétant. C'est des bouleversements qui sont extrêmement rapides et extrêmement violents. Donc là, effectivement, il y a une réflexion globale à mener sur le territoire. Donc, c'est un petit peu une des ambitions du film. C'est qu'on puisse en discuter et qu'on puisse se saisir de ces sujets-là entre agriculteurs, habitants, élus, techniciens, et qu'on puisse réfléchir ensemble.
Lors de ce tournage, en même temps, c'est existé une enquête sur le projet alimentaire de territoire. Est-ce qu'il y a un écho de cet aspect-là dans le film ?
Oui, par rapport au programme alimentaire de territoire.
Justement, à la recherche, à la réflexion.
Oui, oui. Bah, c'est des sujets qui sont connexes. Le film va parler aussi d'alimentation et de comment, finalement, quel type de système et de quel type de distribution se cache derrière notre alimentation. Donc j'espère bien qu'on pourra projeter le film dans le cadre du programme alimentaire du DIWA. C'est encore des choses là qui restent à construire avec nos partenaires de la CCD, ouais, bien sûr.
Depuis 2011, avec la création de l'association Kamehameha, est-ce que vous avez constaté une évolution de la politique agricole et climatique au niveau du gouvernement et sinon au niveau local ?
Alors, je ne vais peut-être pas être le plus grand spécialiste, loin de là, sur cette question-là.
C'était rapport au constat de votre expérience. Hein,
ouais. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, sous le mandat de Hollande, il y avait Stéphane Le Foll à l'agriculture et que lui a essayé de... Et alors, à l'époque, on se demandait si c'était un peu des mots creux ou qu'est-ce qui se cachait derrière. Mais en tout cas, ça parlait d'agroécologie à l'époque. Et donc, il y avait un grand plan national pour l'agroécologie. Il y avait des études qui étaient faites par l'IDRA à la ferme du Bec-et-Loing en Normandie là, pour essayer d'extirper des données et voir comment est-ce que ça pouvait être réplicable. Et puis, il y avait l'initiative 4 pour 1000 qui a été présentée à la COP21, qui consistait à dire que si on enrichissait chaque année tous les sols cultivés de 0,4% en matière organique, donc si on arrivait à faire augmenter les taux de matière organique des sols de 0,4%, ça viendrait en fait compenser la totalité des émissions humaines en temps réel. C'est-à-dire que tout ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, c'est toujours là et ça continue de réchauffer le climat, mais qu'en fait, si on arrivait à maintenir ce taux d'élévation des matières organiques dans les sols, c'est-à-dire capter finalement du carbone dans les sols, quelque part que les sols pouvaient capter l'entièreté du carbone qu'on était en train d'émettre. Alors, c'est problématique parce qu'on se dit « Ah oui, mais donc ça nous donne une excuse pour continuer à émettre. » Donc ça, c'était aussi forcément quelque chose qu'ils ont combattu en disant « Non, c'est pas ça qu'on dit. » On dit que c'est un des moyens de séquestrer énormément de carbone sans passer par de la géo-ingénierie, donc des choses extrêmement coûteuses, extrêmement hasardeuses, parce que ces technologies n'existent pas aujourd'hui. Et en gros, donc c'est Stéphane Le Foll qui a présenté cette initiative en disant quelque part l'agriculture peut être une solution au problème du réchauffement climatique si on change radicalement par contre nos pratiques agricoles. Et donc ça, c'est resté un peu dans des cartons parce que c'est une initiative qui, même si elle existe toujours, C'est relativement peu développé, a été peu reprise. Et aujourd'hui, même si on va vers plus de couverts végétaux, on n'est quand même pas encore dans un type d'agriculture, de par la productivité qu'on cherche à avoir, de par en fait, tous les modes de culture qu'on a. Je parle en grande culture principalement, des cultures de céréales et de légumineuses. Ben, on n'est encore pas tout à fait en train de suivre ce chemin-là. Donc, et aujourd'hui, il y a une grosse inflexion parce que le gouvernement aujourd'hui sous Macron, c'est plutôt de dire l'horizon pour l'agriculture, c'est la troisième révolution agricole. Donc les datas, le numérique, la génétique. Donc ça interroge parce que on a besoin de ces outils, mais sans doute de précision, ce qu'on appelle l'agriculture de précision, qui a sans doute toute sa place, mais est-ce que ça peut être le seul horizon en fait pour l'agriculture? C'est un peu ça qui est. On a l'impression que la partie plus liée au vivant justement et à la vie des sols a été n'est pas en tout cas dans les priorités qui sont affichées, on va dire par l'équipe qui est en place aujourd'hui.
Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes documenté, effectivement, c'était la robotique, la génétique et le numérique hein, proposé par Macron. Est-ce qu'il y a, à l'heure actuelle, une intelligence artificielle qui pourrait substituer la connaissance et le savoir-faire de l'humain?
Alors, on rentre dans les questions métaphysiques.
Mais non, je parle tout simplement d'ordre pratique.
Ouais, pour moi, ça touche plus à de la métaphysique, enfin pas, peut-être pas la métaphysique, mais à une question un peu existentielle quoi, pour l'humain. J'ai vu qu'ils avaient sorti une intelligence artificielle en novembre incroyable qui rédige des textes. Pour ceux qui ont la curiosité d'aller voir ça, ça s'appelle ChatGPT. Et donc du coup, c'est la première intelligence artificielle grand public, c'est-à-dire qui est accessible, sur laquelle, en créant un compte, alors il faut laisser son numéro de téléphone quand même, donc, ce qui fait que moi, je ne suis pas allé au bout de la démarche, mais du coup, on peut a priori interagir avec cette intelligence artificielle, lui demander de rédiger un article dans un style journalistique, par exemple sur le thème qu'on est en train de traiter. Et si ça se trouve, cette intelligence artificielle qui est capable de compiler des milliers, des millions, des milliards de documents, va vous sortir un exposé bien plus convaincant que le mien en l'espace d'un quart de seconde. Voilà, donc ça aujourd'hui c'est du réel, c'est du concret. Après, qu'est-ce que vont faire les intelligences artificielles dans 5, 10 ou 20 ans dans le domaine de l'agriculture? Clairement, j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai pas énormément réfléchi dans le sens où je pense que c'est difficile. Je pense qu'il y en a qui disent que ces intelligences artificielles, on est au seuil d'une révolution qui est aussi importante que celle de l'imprimerie et que celle de l'invention de l'Internet. Donc, s'ils ont raison, dans ce cas-là, personne ne peut vraiment prédire qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est quelque part tellement révolutionnaire que ça peut chambouler effectivement tous les champs en fait, du corps social et annexe, de façon annexe, mettre beaucoup de gens au chômage. Mais finalement, peut-être que le secteur agricole sera le moins impacté, puisqu'on a une intelligence artificielle pour aller faire des semis, pour aller retourner des mottes de terre, pour aller... ça ne va pas nous être très utile. Peut-être, ou en tout cas, je ne le vois pas encore.
L'association Kamehameha, quel est ce nom ?
Y aurait plusieurs réponses à ça. Je crois que c'est tout bêtement une référence au manga Dragon Ball des années 80, avec lequel on a, en tout cas moi j'ai grandi. Et puis du coup, c'est cette image aussi de la... C'est cette image un peu de la dualité, on va dire, d'une lutte aussi, quelque part, pour la lumière et pour des causes justes, on va dire. Voilà. Après, c'est plus un clin d'œil, hein, finalement. Avec le temps, on aurait pu s'appeler aussi autrement.
Je mettrai le lien de l'association, hein, le site internet, sur la page de l'émission, sur notre site RDIWA. Nathanaël Coste, je vous remercie en tout cas d'être venu sur RDIWA pour nous annoncer donc, cette formation, cette conception de la théorie du boxeur, un documentaire lié à l'agriculture actuelle.
Mais merci à vous en tout cas pour l'accueil.
Merci aussi, au revoir, bonne soirée.
Au revoir.
Love.